rime à quoi ? Votre nom à vous, comment se dit-il ?
Aksinia Mikhailova.
On entend l'amour dans ce nom-là, non ?
Ah, je sais pas, puisque on me demande comment la signification de mon prénom. Il y a deux racines là-dedans. La première, ça, c'est quelqu'un qui est très familier, très proche, très tendre, la première racine. Et la deuxième, ça veut dire c'est quelqu'un qui tue. Donc, vous voyez, un oxymore, si je pourrais dire comme ça, deux racines dans un même nom. Soit proche, soit tue, et tous ensemble, ça fait un peu trop.
Aksinia Mikhailova, vous êtes bulgare et votre premier recueil, écrit en français et publié aux éditions Gallimard dans la collection Blanche, vient de recevoir le prix Apollinaire 2014. La poésie et vous, que ce soit en bulgare ou en français, c'est une longue histoire d'amour ?
Oui, c'est d'abord l'amour. Et c'est l'amour qui est au fond de la vie, puisque c'est via l'amour qu'on connaît la vie, et au fond de la poésie. Au fond de tout ce qu'on fait, si on fait les choses avec de l'amour, on va réussir. Même si tu fais une salade avec de l'amour, ou une soupe, tu mets quelque chose. Ce n'est pas la soupe ordinaire, ce n'est pas la poésie ordinaire et ce n'est pas la vie ordinaire. S'il manque l'amour là, dedans, ça c'est une autre chose.
Ces poèmes-là qui se sont réfugiés sous ce titre, « Ciel à perdre », sont des poèmes d'amour donc. C'était un risque pour vous, comme quand on s'élance tout en sachant que l'on n'a plus rien à perdre, que de les écrire en français, dans la langue de l'amour même, comme diraient les plus chauvins des romantiques, qui pensent qu'il n'y a que le français pour dire l'amour.
Je sais pas. Bon. Je ris un peu, puisque l'énergie de la poésie, c'est le premier niveau. La langue, c'est le secondaire. Elle vient après. Si tu as quelque chose en toi de le dire, si ça te traverse, si ça te bouleverse en toi, la langue n'a pas d'importance. Elle arrive après. D'abord, c'est l'énergie de la poésie.
Alors là, pourquoi elle est arrivée en français ?
Je suis sûre que j'avais vécu ici dans une vie précédente. Et je porte cette langue en moi dès ma naissance. C'est un peu comme ésotérique, mais en tout cas, je travaille avec le français depuis 35, 37 ans. Quand j'avais 13 ans, j'ai commencé à l'étudier. Et je continue à l'étudier. C'est un autre poème. Est-ce parce que nous habitons des latitudes différentes et que l'automne vient tôt dans mon pays? Pendant que tu voyages de ville en ville, lis des poèmes et fais des analyses de Sandras en essayant d'expliquer pourquoi, si tu aimes, il faut partir. Moi, je remis la marmelade de prune sur le poêle avec la longue cuillère en bois de ma grand-mère. Je regarde le jardin, toujours le même à la fin de septembre. Je regarde la vie, toujours plus grande que nous, et je comprends qu'elle n'a pas de synonyme. L'épaule dans la basse-cour se dispute en lombrique qu'elle vient de déterrer. Le voisin, au milieu de son rucher, essaie d'introduire la nouvelle reine dans la ruche qu'il a apportée hier soir. car c'est impossible pour deux reines de vivre sous un même toit. Et moi, je retire une abeille égarée, en train de se noyer dans le troisième pot de marmelade.
Quels sont les poètes français, Aksinia Mikhailova, qui vous guident à l'oreille dans votre écriture, à part celui du monde entier au cœur du monde, Blaise Cendrars, que vous citez ici?
D'abord, ce sont les poètes que je devais étudier quand j'étais étudiante au lycée français, à Vratsa. Et c'est par là qu'a commencé tout. Ça a commencé avec Jacques Prévert, dont les poèmes ont été publiés dans mon manuel. Il y avait, je dis, une ou deux cours par semaine de traduction. Le prof nous a donné un poème de Prévert Barbara, « Rappelle-toi Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là ». Quand il nous a rendu les traductions, il les a rendues à tous les autres, sauf le mien. Il a gardé, il m'a dit « Aksinia, viens ». J'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Il m'a regardé fixement dans les yeux. Il me dit « C'est toi qui as fait cette traduction ?» Je ne comprenais pas. Ah ben, j'avais 15 ans. Je dis « Oui, c'est moi qui l'ai faite. Tu ne l'as pas recopiée par hasard ?» Je ne comprenais pas. Je ne savais pas que l'un des plus grands poètes en Bulgarie, Veselin Khantchev, il avait déjà traduit les poèmes de Prévert. Et mon prof a pensé que moi, j'ai pris le livre et les traductions qui étaient déjà prêtes, je les copiais. Mais ce n'était pas vrai. Et je me sentis un peu humiliée, j'avais envie de pleurer, j'étais jeune. Mais c'était, comme on dit, c'est via la douleur que viennent les réflexions les plus claires. J'ai pleuré un certain temps, je ne me sentais pas bien, mais puis c'est le moment où j'ai senti que j'ai un rapport particulier avec les mots. Et ça avec le français, la langue française et mes études, qu'a commencé la traduction et puis l'écriture. J'ai fait une expérience folle, comme sont toutes les expériences quand on est très jeune. J'avais 25-26 ans quand on m'a demandé de traduire des poètes surréalistes. À l'université, on étudiait tous les ismes en Europe, cubisme, surréalisme, expressionnisme, via les théoriciens marxistes. Donc, on n'avait pas la possibilité de lire les textes, mais on lisait ce que disent les professeurs, les grands théoriciens là, de ces mouvements. Après la démocratie, on a créé avec des amis grecs qui étudient à l'université à Sofia. Moi, je faisais ma maîtrise à l'époque. Une revue littéraire qui s'appelle Akhmaries. On l'a nommée une revue pour la littérature et d'autres délices. Et le deuxième numéro était dédié au surréalisme. Et on m'a demandé à Aksinia, est-ce que tu voudrais bien traduire des surréalistes? Moi, j'ai dit oui. Ben, sans savoir de quoi s'agit-il, j'ai commencé avec l'Outremont, c'était un des chants de l'Outremont, c'est l'Outremont qui est quand même au fond. Et puis quelques manifestes de surréalistes de Philippe Soupeau, André Breton, puis John Spencer, Benjamin Perret, Paul Éluard, René Char, les versions de Picasso, Salvador Dali. Ça fait déjà 30 ans. Ça, je les garde en moi, puisque je ne suis pas sortie de la maison. Je ne buvais que de thé, de vin, de pain grillé. C'était vraiment une folie. Et maintenant, quand je pense à ça, si on me demande maintenant, est-ce que tu veux traduire, par exemple, un des surréalistes, il faut que je réfléchisse longtemps avant de dire oui. Mais quand on est jeune, on fait des bêtises. On prend une cuillère, ça sans avoir vu si c'est pour sa propre bouche ou non. Et ça, c'était une dure école que j'ai pu passer. Et merci le destin. Et puis, j'ai continué à lire de la poésie. J'ai traduit aussi des romans. Puis c'était Georges Bataille, Pierre Bourjade, Sylvie Germain que j'ai traduit.
Contrairement à ces poètes surréalistes et plus que vous avez traduit, Aksinia Mikhailova, vous ne vous laissez pas souvent aller au plaisir de la rime dans ce livre-là, Si elle a perdre.
Il y a des poètes qui sont plus proches de la peinture, il y a d'autres qui sont plus proches de la musique.
Et vous?
Ça se voit, je suis plus proche de la peinture. Si tu vois la vie, comme une musique, si tu la sens comme une musique, tu écris des rimes, des vers comme ça. Si tu le sens autrement, bon,
comme
tu
te lèves vite. Comme bah, il est dit quelque part.
Bah oui, un bouquet de couteau. C'est un poème, il arrive avec les fréquences, il arrive avec la forme. S'il arrive rimé, bon, je l'accepte. Mais s'il arrive autrement, le violer, le dire « Non, je vais te mettre des rimes comme ça pour que ça soit dans la norme », non, je ne le fais jamais. Je me donne au poème.
C'est un récit que cette succession de poèmes, à la fois amer, il est quelque part question de l'amertume, d'une loutre de l'amertume, à la fois amer mais pas vraiment triste, un peu comme ce ciel-là, parce que vous l'écrivez, Aksinia Mikhailova, on n'a jamais vu un arbre, ni même un oiseau triste. Et là, évidemment, on entend votre copain Jacques Prévert un peu derrière avec son pinson, mais chez vous, c'est toujours un tantinet décalé, ce regard-là, qu'il soit pictural ou pas.
Je vais parler de mes poèmes. Bien que je suis philologue, je suis même lecteur dans une maison d'édition en Bulgarie et il faut que je fasse des notes pour des livres des autres. Mais j'aime pas expliquer. Puisque expliquer un poème, ça veut dire que je dis au lecteur, t'es un mauvais lecteur et il faut que je te donne un horizon, je te construis des rails dans lesquels tu vas comprendre les trucs. Et de cette façon, je lui prive de la possibilité de voir quelque chose et de se déposer lui-même dans le poème. Concert en plein air. Schubert se faufile entre les grilles du rez-de-château et atteint le champ de maïs encore vert, comme s'il voulait cacher toutes tes absences derrière mon dos, tous mes essais pour te voir et te reconnaître dans 20 ans dans les yeux bleus fanés de vieux monsieur qui tient avec tendresse la main de sa compagne assise à ma droite. J'ouvre le parapluie, je ferme les yeux et je te fais asseoir sur la chaise à côté de moi. Comme ça, tu ne prendras pas froid sous cette pluie fine en plein juillet. Comme ça, tu auras juste une place précise, 50 sur 50, dans mes pensées. Le concert a déjà fini, mais je serre mes paupières pour ne pas voir ta chaise monstrueusement vide et ton absence peuplée de nouveau. Entre le maïs encore vert et mes hivers à venir.
Ces deux, trois derniers vers-là du concert en plein air, Aksinia Mikhailova, sont presque les seuls de tout ce recueil, Ciel à perdre, qui joue de la poésie, de cette rime-là qui n'est pas présente et qui en même temps résonne à l'oreille. Alors, si ça résonne à l'oreille, c'est aussi parce qu'on est en concert. Pour une fois, ce n'est pas pictural. En le lisant, j'ai pensé que peut-être que ce que vous livrez à la toute fin, pas très loin de la fin, page 85, lorsque vous écrivez « Quand je tente de te dire que ce ne sont pas des poèmes, mais des mots simples avec lesquels je nomme tous les manques de jadis et d'aujourd'hui », en fait, ce livre-là qui s'intitule « Ciel à perdre » et qui est sous-titré « Poème » chez Gallimard dans la collection Blanche, est un long récit, une longue prose poétique. Mais peut-être que ce ne sont pas des poèmes au sens où on entend des vers qui iraient à la ligne. Et tout d'un coup, en le pensant autrement, ce livre-là, en le lisant comme des blocs de prose, aussi compacts qu'un amour, je trouve qu'on entend la poésie.
Ouais, c'est peut-être puisqu'il y a... On me l'a dit, c'est... D'abord, j'ai... Je vous remercie, puisque pour la première fois, je me rends compte que le concert en plein air, il y a les rimes qui sont...
C'est la seule
vraies.
Fois.
Je le jure, je l'entends, je le vois pour la première fois. Ça est venu comme ça. Oui, on peut dire que ça, c'est un long poème. Puisqu'au fond de chaque poème, il y a un sujet, il y a un récit. Il peut être transformé en quelque chose, en prose. Elle m'a posé plusieurs fois la question, est-ce que j'écris de la prose? Non, j'écris pas. Mais pour moi, l'essentiel, c'est de raconter quelque chose là-dedans. Et peut-être ça donne l'impression d'un récit, ce que vous aviez dit tout à l'heure.
Je n'ai pas tissé de voile, j'ai cajolé des mots. Mais les marées des mots sont versatiles. Est-ce que cela signifie que ce recueil-là, si elle a perdre, Aksinia Mikhailova, il vous a pris du temps.
C'était pas dur puisque j'ai jamais pensé au début que je pourrais faire un livre et je pourrais le faire publier en France. Donc, il arrivait. D'abord, c'était un choc pour moi.
Qu'il arrive en
français, oui. Tous, ils disent, on n'écrit que de la musique en langue maternelle. Eh bien, on se sent un peu traître de langue vulgaire. Puis, en tout cas, j'écris 3 ou 4 poèmes, parfois 5 par an. Pas plus. Je suis un peu paresseuse. Je me suis dit, si je le chasse et si je le dis va-t'en, je vais me priver de ce poème. Qu'il vient en quelle langue il veut. Une chose qui ne m'est jamais arrivée quand j'ai écrit en bulgare, pour 2 ans, 2 ans et demi, ils sont sortis 2/3 des poèmes qui sont dans ce livre. Quand j'ai contacté des amis ici en France, puisque je ne disais pas à mes amis bulgares que j'écris en français, c'est un peu soupçonneux. On dit, elle habite en Bulgarie, elle écrit en français, elle se prend pour qui? Et donc j'ai caché ce fait que j'écris en français. Ils m'ont conseillé, mes collègues, mes amis ici, que je suis maintenant dans le fleuve, dans les fréquences. Il faut mieux que j'écrive tout ce qui vient, puisqu'un jour, le fleuve va sécher. Et je ne serai plus dans les mêmes minéraux, je ne serai plus dans les mêmes couleurs. Et donc, ce n'était pas dur. Et quand ils sont devenus 40-50 poèmes, j'ai pensé que je pourrais les envoyer quelque part. Et je l'ai fait.
Et ce ciel à perdre, alors, qui est le titre de ce recueil, Aksinia Mikhailova, d'où vient-il? Quelque part, il est question de la petite fille qui tire un ciel perdu, accroché à son cerf-volant. Ailleurs, il est question d'un ciel à perdre à même un homme, sur le mur de son âme, quelque part, comme une fenêtre à la fois qui serait tantôt ouverte, tantôt fermée. Pour vous, qu'est-ce qu'il dessine, ce titre-là?
C'est comme un spider, un araignée. Au cercle, je peux mettre le substantif ciel.
Au tout début de la toile d'araignée, au cœur?
Oui, au cœur. Chaque fil, dans des poèmes, tu peux trouver plusieurs synonymes à ce ciel à perdre. Comme vous avez déjà mentionné, trois, une petite fille qui tire un homme, un amour, un rêve. Ça dépend, ça se transforme. Dans cette toile d'araignée, tu peux voir des gouttes. Et chaque goutte, parfois, elle est en correspondance avec le cœur, avec ce ciel.
Le recueil s'ouvre sur une 5e saison. Il en est question aussi un peu après. C'est là où se démultiplient les herbes folles. Un peu comme l'araignée, elles sont envahissantes. C'est une échappée pour vous, Aksinia Mikhailova, cette idée qu'il y a des possibles plus loin que les 4 saisons, ou les 4 éléments, ou tous les continents du monde?
Soit échappée, soit sauvetage, parfois. Moi, j'aime la vie et je préfère la vivre et pas l'écrire. Quand je n'ai pas la possibilité de la vivre et de l'embrasser telle que je la veux, je préfère un peu l'inventer au moins. Elle sera dans mes images, elle sera pleine, elle ne sera pas une assiette à brécher cette vie. Quand je suis prise de doute, quoi que tu écrives, tu n'exprimeras point le sens, car au commencement n'était pas le verbe, mais la joie des corps. Ensuite est venue la saison de la douce faim. L'horizon a blanchi et les oiseaux ont attaqué les blés. Les petits fauves des mots que nous nous lancions mordait de plus en plus acharné notre avenir commun. Et j'ai compris que seuls mes sens articulaient toutes les nuances de bleu dont ton langage est imprégné. C'est alors que je t'ai perdu à la fin d'un poème. À présent, le silence dans le cœur Je regarde le ventre lisse de la lune d'août frémir dans la tasse en porcelaine. Mais tu ne peux pénétrer dans ce paysage, car au-dessus des épaules, tu es un véritable hiver. Aussi, je reste dans ma réalité. Je te rends les mots. Je garde ma joie.
France Culture, ça rime à quoi ? Sophie Nolot.
Et ces mots-là, Ksenia Mikhailova, ces mots en français, ces mots qui vous sont venus un peu comme une partition qui s'écrit toute seule et que l'on n'a plus qu'à retranscrire, quelle que soit la langue que vous prendrez pour parler à l'aimer, vous ne parlerez pas la même langue. En quoi le poème, tout d'un coup, peut être une langue commune qui à la fois dit les choses et qui en même temps est toujours un peu ou au-delà ou en deçà de l'autre ?
D'abord, je l'ai déjà dit dans le poème, il y a une zone dans l'amour où on n'a pas besoin de langue. On communique à des ondes qui n'ont besoin d'être articulées. C'est d'abord.
C'est le corps qui s'en charge.
Ben, c'est pas seulement le corps. C'est pas seulement le corps. Il y a d'autres choses. On ne peut pas le nommer. Si on le nomme, on va mettre des limites. On pourra pas l'expliquer au total. Dans un poème, c'est la même chose comme dans l'amour. Le cyrillique, il m'arrive souvent avec des amis ou bien avec quelqu'un quand je fais connaissance. Si je le sens proche, et c'est pas, il y a des filles, je viens tout à l'heure de parler avec une fille comme ça, je le sens proche et je peux pas expliquer comment ça arrive, mais je commence à parler en bulgare. Ça veut dire déjà que j'ai dépassé cette barrière. Je le sens comme moi. Et ça alors, je ne me rends pas compte. Parfois, ils m'écoutent en souriant juste en face. Et dans une minute, ils me font signe. Ah ben, je comprends pas. Et là, c'est alors que je me rends compte que je parle pas en français. Je pense qu'il y a d'autres règles, d'autres lois qui dirigent la communication. J'ai fait des essais pour traduire en bulgare. Mais j'étais pas contente. Bien que je suis un traducteur. Et j'ai un système. Par exemple, je traduis un auteur, je parle de la poésie. Je le laisse 6 ou 7 mois pour oublier que c'est moi qui l'ai fait la traduction. Puisque comme ça, je regarde les textes, les traductions, comme si c'est étrange, ça n'a rien à voir avec mes pensées, ce que j'avais fait. Et c'est plus facilement que je pourrais découvrir les fautes, les choses qui ne vont pas. Il y a 10 ans, quand j'ai pensé à traduire certains de poèmes que j'avais écrits en français et en bulgare, puisque j'avais déjà élaboré un système de travail là, avec la traduction des poèmes des autres, j'ai essayé, mais je n'étais pas contente. Quelque chose me manquait. Et je ne savais pas de quoi s'agit-il. Et il me fallait quelques années pour comprendre. Quand tu écris un poème, tu es dans un nuage d'énergie. Tu as des fréquences qui sont propres à toi et au poème. Ça peut durer 15 minutes, ça peut durer 1 heure, 2 heures. Et puis, ça, c'est fini. Tu as écrit le poème et ça, c'est fini. Quand j'ai essayé de le traduire du français en bulgare, je me suis rendu compte que c'est justement cette énergie. Je pouvais la retourner. Je ne pouvais pas revenir. Je ne pouvais pas monter au même niveau. Et c'est les mots. Ils sont les mêmes, le sens est le même. Mais c'est ce qui manque là, c'est cette énergie que j'ai perdue et qu'elle n'existe qu'au moment où tu écris. Et ça, dans la traduction, tu ne peux pas le faire. Et voilà pourquoi j'ai changé un peu depuis quelques mois. Quand j'écris un poème en français, si j'ai le temps, je le fais tout de suite en bulgare pour garder un peu de cette énergie. Si je reste dans le nuage, ça se fait plus vite. Mais si tu sors du nuage, tu ne peux pas. Autrement, ça me faisait de peine à penser que dans ma propre langue, dans ma langue maternelle, il y a un poème que j'ai écrit, que j'ai traduit et qui ne va pas. Et cette manque. Bon, ce ne sont pas les mots, ce ne sont pas les images, ils sont les mêmes. Ce qui fait, en tout cas, c'est la poésie. C'est l'énergie qui traverse les mots, qui traverse les images et qui fait le poème tout entier. Si ça manque, c'est ça le verbe dans le sens biblique.
Et c'est ça aussi le ciel à perdre.
Bah oui, c'est ça aussi, le ciel est à perdre. Oui, c'est ça. Il faut que la poésie redonne le sens biblique du verbe. C'est le verbe, il crée des mondes. Aujourd'hui, ce qu'on écrit, et la plus grande partie des livres de poésie qu'on publie, bien fait, très bien, tu lis, tu fermes, plus rien. Pas une image dans ta tête, pas un sens qui est touché, rien. Mais je suis sûre qu'un jour, on va rendre au verbe cette force qui était au début. Maison. Hier, pendant que les branches nues du noyer desserraient leur étreinte pour l'unique pièce de bleu au-dessus de la colline, je comptais les doigts de ma main et je voulais tellement que nous ayons plus de souvenirs communs. Les pommes cuites dans le four ont brûlé et le lait s'est enfui. Au retour de la boulangerie, j'ai laissé son chemin à une coccinelle qui s'était trompée de saison et je suis tombée dans un trou sur le trottoir. Demain, avant les grandes pluies, je vais réarranger les dalles et puis ma vie. Mais ma voix ne trie pas mes pensées. Maintenant, assise derrière la fenêtre en attendant l'hiver, je regarde le ciel gris et les dalles pas encore à leur place. Je regarde perplexe la botte de plâtre sur ma jambe droite, blanche comme un mur fraîchement peint à la chaux. Je compte sur les doigts. Je calcule nos souvenirs communs et je fourre la main gauche, oiseuse, dans la poche de mon gilet. La douleur dans ma cheville me rejette dans la réalité. Le bleu du ciel d'hier est le remède. Pourtant, il ne nous appartient plus, me dis-je, pendant que tu m'offres de l'aspirine et un verre d'eau. Mais ma voix ne trie pas mes pensées.
Ciel à perdre, d'Aksinia Mihailova, récent prix Apollinaire et publié aux éditions Gallimard. Sarima Kwa, 24 heures sur 24 sur franceculture.fr pour réécouter durant 1000 jours et nuits et télécharger librement le temps d'une année entière. Sarima Kwa, Julien Douminc, Jason Taous, Patrick Molinier, Sophie Nolo. Changement de décor dès 20h30 sur France Culture, place au théâtre avec Joël Gaillot.